Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. C'est l'événement de la semaine, du mois, voire même de l'année, un nouvel iPad mini sera bientôt disponible. Et oui, 3 ans après sa dernière version, la petite tablette d'Apple a enfin été mise à jour. Elle gagne notamment une puce A17 Pro et plein de mémoire vive pour devenir compatible avec Apple Intelligence. Mais est-ce que c'est vraiment le nouvel iPad mini que l'on attendait? On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, Apple voudrait installer plein d'écrans supplémentaires dans les maisons, le Vision Pro semble en petite forme, et Tim Cook aurait passé un coup de fil à Donald Trump pour se plaindre de la méchante Europe. Nous sommes le samedi 19 octobre, c'est parti pour le débrief des infos principales de la semaine. Des MacBook Pro M4 se baladent en Russie depuis le début du mois, mais ce n'est pas eux qui ont été annoncés cette semaine. Salut Christophe, ça va ?
Salut Stéphane. Ah bah oui, quelle belle semaine à ce nouvel iPad mini avec Face ID, une puce M4, un écran Retina XDR,
attends, système audio. Non, je crois que tu t'es trompé là.
Ah mince, j'ai mis la mauvaise puce. Ah mince. Non mais malgré tout, ça va bien. Et toi ?
Ça va bien, ouais. Apparemment, tu avais raison, les MacBook Pro M4 aperçus en Russie sont bien authentiques.
Eh bien, écoute, on les attend maintenant pour vraiment être certain et pour voir si il y a bien 16 gigas de RAM par défaut.
Ça serait pas mal, ouais. Ça serait pas du luxe. Mais le produit annoncé cette semaine, c'est donc l'iPad mini de 7e génération. Alors, c'est une double surprise. On s'attendait pas forcément à une annonce en pleine semaine, comme ça, avec un simple communiqué de presse. Et puis, même s'il y avait eu des rumeurs, on n'est jamais trop sûr de l'avenir de l'iPad mini. C'est un iPad qui est mis à jour de façon très irrégulière. À ses débuts, il y avait une nouvelle génération tous les ans. Mais depuis l'iPad mini 4 sorti en 2015, il faut se montrer très patient entre chaque renouvellement. Un petit historique, l'iPad mini 5 est sorti en 2019, le 6 en 2021. Et le 7 va donc arriver mercredi prochain, le 23 octobre. Ce nouvel iPad mini a une puce A17 Pro et sûrement 8Go de RAM. Apple ne le précise pas, mais puisqu'il est compatible avec Apple Intelligence, il devrait avoir 8Go de RAM, soit le double de l'iPad mini 6. Donc Apple Intelligence, c'est un argument assez important, alors que les fonctions vont arriver très bientôt, enfin, sauf en Europe. Hein. Puis il y a d'autres petites nouveautés comme le Wi-Fi 6E, la prise en charge du Pencil Pro et l'USB 3 à 10 gigabits par seconde. Donc techniquement, c'est un iPad mini plus moderne, mais est-ce que c'est vraiment l'iPad mini qu'on attendait ?
Alors, il faut repréciser ta question, Stéphane. Tu parles de l'iPad mini que tu espérais, toi, ou qui ressemblait, on va dire, aux caractéristiques techniques que je disais pour rigoler tout à l'heure, ou est-ce que c'est l'iPad mini qu'on pouvait espérer d'Apple ? C'est là où il faut...
Ah, bah c'est oui, les attentes des clients et d'Apple ne sont pas forcément les mêmes. Oui. C'est sûr que moi, j'espérais beaucoup un iPad mini Pro, mais... C'est pas ce qu'Apple a fait.
Non. Au passage, il y a eu cette polémique que je trouve à 2 francs 6 sous de personnes qui s'étonnaient que l'iPad mini n'ait pas le même système sur puce que les nouveaux iPhones. Alors, pour ceux qui s'étonnent de cette différence, je les invite à comparer le prix d'un iPad mini et le prix d'un iPhone 16 ou d'un iPhone 16 Pro. C'est quand même un peu moins cher.
Oui.
Moi, l'élément qui me frappe finalement dans cette affaire, c'est qu'Apple s'est donné la peine de mettre à jour l'iPad mini. Et comme tu le disais, finalement, la seule raison qui a poussé Apple à mettre l'iPad mini à jour, c'est Apple Intelligence. Mm-hmm. Ça montre quand même à quel point elle croit, ou en tout cas, elle mise vraiment sur l'intelligence artificielle. On aime tous l'iPad mini, c'est un appareil très attachant.
On l'adore même.
mais en termes de vente, c'est quand même pas grand-chose. Et enfin voilà, il y a eu des transitions, alors je pense au Retina par exemple, où Apple a vraiment pris son temps, ça a duré des années et des années. Là, on a vraiment l'impression qu'il faut que tout nouvel appareil qui sorte soit compatible avec cette technologie. Et on le verra d'ailleurs avec l'iPhone SE l'année prochaine. Apple a sans doute dû revoir ses plans, notamment en ce qui concerne la dotation en mémoire vive, pour que le modèle donc, de 2025 soit compatible Apple Intelligence. Mmh. Alors, l'avantage, c'est que ça fait plus de RAM pour tout le monde. Et comme je le disais tout à l'heure, si les MacBook Pro pouvaient passer à 16Go en standard, eh bien, écoute, ce sera déjà pas mal.
Clairement, ouais. Ouais, l'iPad mini, donc on va le recevoir mercredi prochain. J'ai hâte de le tester. Je crois que je préempte le test en tant que grand fan de l'iPad mini. C'est vrai que C'est sympa de le voir mis à jour. Voilà, ça va faire des années encore supplémentaires de maintenance, entre guillemets, donc il sera compatible avec Apple Intelligence, mais voilà, il y a des petites déceptions de voir qu'il n'est pas aussi évolué sur certains points que d'autres iPads. Mais voilà, on parlera de tout ça dans le test.
C'est un peu le souci. On en avait parlé d'ailleurs avec l'Apple Watch Ultra, qu'Apple sorte moins fréquemment des mises à jour, j'ai aucun souci avec ça, c'est même plutôt pas mal. Mais c'est vrai que ce qui serait agréable, c'est que ces mises à jour, lorsqu'elles arrivent, on se dise « Ah oui, ça valait la peine d'attendre 3-4 ans. » Tandis que là, je pense que même les smart... Le seul avantage, je pense, c'est que la smart cover doit être compatible.
Ça, c'est l'avantage. Quand le design ne change pas, c'est que voilà, les accessoires restent compatibles. Enfin, oui non, parce que là, on a vu que le Pencil 2 n'est plus compatible. Ce sera le Pencil Pro à la place. Donc, ça va faire un changement pour ça. En parlant de tablettes, Apple aurait dans l'idée de faire des tablettes sédentaires. Alors c'est Mark Gurman qui remet ce sujet sur le tapis avec de nouvelles infos. D'après le journaliste de Bloomberg, Apple travaille sur deux écrans connectés pour la maison. Ça serait des équivalents au Nest Hub de Google et aux Echo Show d'Amazon. Alors il y aurait un écran assez abordable qui permettrait de regarder des vidéos, de surfer sur le web et d'utiliser quelques applications. Et il y aurait un appareil plus sophistiqué qui serait sur un bras robotisé et qui pourrait donc bouger un peu tout seul pour nous suivre, par exemple, quand on cuisine ou n'importe quoi, quand on fait n'importe quoi dans le salon. Et donc, ces écrans fonctionneraient avec HomeOS, un nouveau système d'exploitation dédié. Alors, je sais pas toi, mais moi, j'ai beaucoup de mal avec le concept des écrans connectés. En fait, je vois pas trop l'intérêt d'acheter un produit de ce type alors que tu peux faire la même chose avec un iPad. Il suffit de poser l'iPad sur un support pour avoir un écran connecté, non ?
Oui, non. Alors, l'un des soucis de HomeKit, de mon point de vue, c'est qu'il n'a pas d'appareil dédié, il n'a pas d'incarnation. D'ailleurs, c'est un problème lorsque vous invitez des gens. Alors, s'ils ont un iPhone, on peut éventuellement les inviter dans maison, mais tout le monde n'a pas forcément un smartphone, je pense notamment aux plus jeunes. Et sinon, ils peuvent avoir des smartphones Android. Donc, avoir une incarnation, malgré tout, ça peut être utile. L'Apple TV ou les HomePod font concentrateur HomeKit, mais qu'on le veuille ou non, ce n'est pas leur fonctionnalité principale. Alors moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait de la place dans la gamme Apple pour un appareil comme cela qui irait un peu plus loin, quand même. Idéalement, il ferait également serveur de backup et pourquoi pas routeur Wi-Fi. Bon, je sais, là, autant écrire une lettre au Père Noël et demander, voilà, et demander un iPad mini qui déboîte avec un... Voilà, comme on disait plus tôt. Nicolas a beaucoup regretté que HomeKit n'a pas beaucoup évolué cette année. Alors, c'est peut-être lié à ce projet. Peut-être qu'on aura en début d'année prochaine un appareil dédié avec de l'intelligence artificielle qui permette à Apple de franchir un nouveau cap dans la domotique. On verra bien. C'est plutôt, moi, le second prototype que, depuis le début, j'ai toujours un petit peu de mal parce que j'ai bien compris qu'il coûterait assez cher. J'ai bien compris qu'il pourrait être suivi. Alors, éventuellement, pour la vidéoconférence, ça peut être sympa, notamment dans les milieux professionnels. Mais si à la maison, c'est un petit robot qui commence à me suivre, va falloir qu'il soit capable de manipuler un aspirateur ou une balayette. Hein. Voilà, que ce soit des robots... Voilà. Ça me fait penser un petit peu aux robots d'Elon Musk, mais voilà. C'est ça. Donc, pour l'instant... mais alors, ça a l'air d'être un projet qui en est qu'à ses débuts. En tout cas, enfin, je parle du robot, enfin, du projet du robot d'Apple qui peut se balader. Et on a l'impression que le concept les amuse beaucoup, mais qu'ils sont pas encore... ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'il doit faire précisément.
En tout cas, la technologie au niveau logiciel est quand même, elle commence à être là puisque donc il y a l'API DockKit qui permet maintenant à des accessoires tiers. Tu poses ton iPhone dessus et l'iPhone va te suivre, va faire bouger le bras automatiquement de l'accessoire. On en a testé un, ça fonctionne pas mal, donc on voit qu'Apple est clairement parti dans cette direction. Mais avant de lancer une nouvelle plateforme, est-ce qu'Apple ne devrait pas s'assurer que toute cette plateforme existante soit sur la bonne trajectoire ? C'est la question qu'on peut se poser quand on voit les statistiques d'applications parues sur VisionOS dernièrement, c'est le troisième sujet de la semaine. D'après le service spécialisé AppFigure, après l'arrivée de centaines d'apps au moment du lancement du Vision Pro aux États-Unis, les arrivées se sont effondrées. En août, AppFigure n'a comptabilisé que 17 nouvelles applications VisionOS natives, et en septembre seulement 10. On sait que la richesse de l'écosystème est importante pour qu'un produit réussisse. Alors est-ce qu'il y a lieu de paniquer? Et si oui, bah, comment faire décoller Vision OS et le Vision Pro?
On ne va pas tourner autour du pot. À l'instant T, le Vision Pro, c'est une catastrophe. Apple a eu d'autres lancements difficiles dans son histoire, mais par exemple, pour citer le Mac, avant que cela se complique, il y a eu une certaine effervescence. Je crois qu'on l'a déjà évoqué, mais nous, médias, on a quand même beaucoup investi depuis le début de l'année en ce qui concerne le Vision Pro. Voilà, on y a passé beaucoup de temps, on a écrit beaucoup d'articles. Mmh. Et je pense que la question se pose pour nous de savoir quel sort on doit traiter au Vision Pro. Parce que, enfin, on va là encore pas tourner autour du pot, les chiffres de lecture sont systématiquement ou presque mauvais. J'ai eu l'occasion d'en parler à des confrères, même son de cloche. Alors, plus ça va, plus j'ai l'impression que, voilà, le Vision Pro, pour moi, c'est un délire de Californien qui ne résiste pas à la réalité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'application professionnelle, mais si Apple voulait démocratiser l'usage des casques, même si c'est soi-disant pas un casque, bah, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'y est très mal prise à tous les niveaux. Faire des produits, c'est bien, mais il vaut mieux qu'il y ait une vision, justement. Alors, on l'a vu avec l'Apple Watch, Apple a lancé ça, le projet, sans trop savoir où elle allait, mais c'était une montre. Les gens ont réussi à comprendre ce qu'ils pouvaient faire de cet objet-là. Un casque, un objet qui est si radical, sans vision, ben à mon avis, ça passe pas. Et à la fin, il faut qu'Apple tire des décisions de cet échec, de ces échecs, j'ai envie de dire. Son incapacité à être dans le coup sur le marché des véhicules autonomes, alors qu'elle a investi des milliards et des milliards de dollars. Avoir loupé le train de l'intelligence artificielle générative, et là, le Vision Pro, qui était quand même son gros projet, qui est en gestation depuis des années, et dont, enfin, Tim Cook a quand même teasé la réalité augmentée depuis, je sais pas, 5, 6, 7 ans au moins. Et donc, voilà, tout ça pour en arriver là. Et ça devient problématique parce que finalement, voilà, on a l'impression qu'Apple n'a pas de vision, n'a pas de vision précise de l'avenir. Et voilà, les gens maintenant regardent par exemple un événement de Tesla en disant « Ah ouais, le futur c'est ça ». Alors ils peuvent être, et à juste titre, très critiques sur tout ce que montre Tesla, mais au moins il y a une vision.
Il y a beaucoup de promesses.
Voilà, il y a des promesses, vision, et on veut effectivement, on se doute bien que le robot taxi n'arrivera pas avant 2030, que on a bien compris que le robot, que les robots, c'était pas fake, mais qu'il y avait beaucoup de choses où il y avait de l'humain, il y avait beaucoup de bricolage derrière.
Oui.
Mais au moins, on sait où ils veulent aller. Alors après, on peut être critique, on peut aimer, on peut ne pas aimer. C'est un problème. Apple, c'est quand même très très flou à côté.
Le Vision Pro n'est pas forcément condamné non plus. Là, on voit qu'Apple elle avait tenu une petite VVDC miniature pour inciter les développeurs à développer pour cette plateforme. Il y a des rumeurs de Vision 2, enfin non, de, pardon, de Vision Lite en quelque sorte, Vision Air moins cher. Est-ce que ça pourrait pas permettre de relancer la machine dans quelques temps, tout ça?
Alors, c'est difficile parce que quand ça prend pas au début, refaire partir la machine, c'est vraiment compliqué. Et je ne suis pas certain que même avec un prix, alors on parlait de 2000 euros, cela change vraiment la donne. Alors, ils vont sans doute en vendre un petit peu plus. Mais à la fin, je pense qu'il y a la question des usages qui se posent. Et je pense que le péché originel d'Apple a été de vouloir vendre le Vision Pro aux professionnels et non au grand public. Il y avait cette fameuse conférence, je crois que c'était avec le Wall Street Journal, où on posait la question à Steve Jobs à la fin des années 2000. Et on lui disait, mais quand est-ce qu'Apple va faire un vrai iPod vidéo? Et là, il était avec ses mains et on avait l'impression qu'il mimait un casque, enfin, sans le vouloir d'ailleurs, il disait, on n'a pas le produit, on n'a pas les technologies. Et quelque part maintenant, on les a ces technologies. Et le point de départ peut-être pour le Vision Pro aurait été de dire, voilà, ben, on vous offre le meilleur cinéma au monde personnel que vous pouvez embarquer avec vous et que vous utilisez à tout moment. Peut-être que ça aurait dû être ça le pitch initial du Vision Pro, enfin, ça aurait été d'ailleurs pas un Vision Pro, mais un Vision, avec d'autres capacités ludiques, comme la possibilité de faire tourner des jeux, ce genre de choses. Tout ça vendu à un prix nettement moindre. Alors peut-être que technologiquement, l'appareil aurait été moins spectaculaire, mais il y aurait peut-être eu matière à écrire une histoire qui se serait écrite évidemment sur le long terme en disant, ben voilà, au fil des années, on va rendre ce produit toujours plus fin, toujours plus agréable et également toujours plus performant pour viser de nouveaux marchés et de nouvelles utilisations. Voilà.
C'est vrai que je le vois avec le Vision Pro de la rédaction. Donc on se le partage un peu entre nous. Mais en fait, à chaque fois, l'usage principal qu'on en fait chacun, c'est pour regarder des vidéos. Et il n'y a aucun d'entre nous qui a pris l'habitude de le prendre pour travailler, que ce soit aussi bien au bureau ou en mobilité. Donc peut-être qu'un Vision Pro, un Vision Air, je ne sais pas son nom, moins cher, mais beaucoup moins cher et dédié à la vidéo, pourrait mieux fonctionner. Ouais.
C'est sans doute la base, c'est là où tout le monde voit en tout cas un véritable avantage à cet appareil. Et c'est vrai qu'on l'utilise à ce niveau-là, on se prend quand même du claque. Hein. Moi, je trouve ça complètement inexplicable. Voilà, c'est cette idée d'avoir voulu lancer un appareil comme ça, si cher. C'est assez étonnant en tout cas.
On va terminer le tour de l'actu avec une confidence de Donald Trump en pleine campagne électorale. À quelques semaines de l'élection présidentielle, Trump a affirmé que Tim Cook lui avait passé un coup de fil pour se plaindre de l'Union européenne. Alors si l'on en croit Trump, Tim Cook se serait plaint des amendes et redressements fiscaux de plusieurs milliards d'euros reçus par Apple au cours de cette année. Trump s'est montré compatissant envers le patron d'Apple et il lui aurait dit, je cite, alors, Tim, je dois d'abord être élu, mais je ne vais pas les laisser profiter de nos entreprises. Ça ne se passera pas ainsi, vous le savez. Fin de la citation. Je ne sais pas si je fais très bien Trump. Sachant que Trump est un menteur invétéré, tu crois vraiment que Cook a décroché son téléphone pour se plaindre de la méchante Europe ?
Ah mais totalement. Alors là, Ah mais autant... Enfin, Trump est très, très créatif, on va dire, mais à ce niveau-là, je pense que enfin, ça lui ressemble. Bon, soyons clairs, si l'élection se passe en Europe, je pense que le résultat ne ferait aucune surprise. Je ne suis pas spécialiste de la politique américaine, mais a priori, cette élection, à peu de choses près, on va dire, c'est du 50-50. On va dire 55-45, encore, je ne saurais même pas pour qui. Alors, certains voient toujours Apple comme une société romantique liée à l'héritage de Think Different. Mais chaque jour nous montre que ce soit en Russie, en Chine ou ailleurs, que sa vraie doctrine, c'est la réelle politique. D'ailleurs, Tim Cook ne s'est pas du tout positionné dans cette campagne, contrairement à d'autres qui se sont sans doute un peu trop positionnés. Et on imagine sans doute d'ailleurs que les employés d'Apple ont sans doute massivement fait des dons pour Kamala Harris. Alors, dans cette situation, personnellement, si je suis Tim Cook, quelles que soient mes préférences politiques, et je pense qu'on croit connaître les préférences politiques de Tim Cook, hein, ça fait guère de doute. Le minimum que je fais, c'est d'entrer en relation avec les entourages des deux candidats pour connaître leurs intentions et faire passer mes idées. Et avec Trump, on l'a compris, il vaut mieux ne pas être dans son viseur. Il a promis le pire à Google s'il était élu une nouvelle fois président. D'ailleurs, si Tim veut se rassurer, il peut toujours regarder la situation judiciaire de Google en comparaison, qui est, on a envie de dire, autrement plus délicate. Et bah, le sujet de l'Europe, c'est un sujet qui, à mon avis, réunit sans doute et Tim Cook et Donald Trump. Donald Trump adore taper sur l'Europe. Là, j'imagine bien Tim Cook, regardez, là, on a un gros problème. On respecte toutes les règles et les conventions et on a toujours une régulation, des procès pour nous extorquer des milliards de dollars. Voilà, je pense que Donald Trump, la réaction de Donald Trump à ce niveau-là ne me surprend pas. Mais quel que soit la présidente élue, les années à venir, je pense que pour les big tech, ça risque d'être difficile. Alors, on ne sait pas à quel point ils vont vouloir continuer la régulation. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr que la moindre des choses, c'est d'essayer d'entretenir, on va dire, des relations cordiales, que ce soit avec Donald Trump ou avec Kamala Harris. Bon, c'est peut-être un peu plus difficile avec Donald Trump, mais je pense que ça fait partie du boulot. Et autant il y a des fois, bah là, il y a 5 minutes, on était encore très sévère avec Tim Cook, autant à ce niveau-là, il faut reconnaître qu'il fait quand même plutôt, il fait plutôt bien le job.
Oui, parce que lors du précédent mandat de Trump, effectivement, les deux étaient assez proches, on les voyait souvent ensemble, Trump et Cook.
Alors proche, oui, enfin, on les... Alors, pour une fois, Tim Cook et
disons
Apple
que
avaient preuve de
Tim Cook
beaucoup de
avait réussi,
courage.
oui, il avait réussi à défendre les intérêts d'Apple auprès de Trump, quoi.
Mais c'est vrai que même à ce niveau-là, l'élection, enfin les résultats du 5 novembre, bah, ça promet d'être passionnant et il faudra suivre tout cela de près.
Ouais. Eh bien, écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end.
Bon week-end à tous.
Bon week-end à tous. Et puis, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou n'importe quelle autre plateforme pour sortie de veille. Salut à tous, bon week-end.